Bonjour. Comme il y a quelque temps, nous allons reprendre de nouveau Jean chapitre 3 et versets 7 à 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, versets 7 à 8. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. » Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole. Et je vous ai déjà enseigné il y a quelque temps, l'autre jour, au sujet de ce qu'est un homme né de l'Esprit. Jésus dit, il est comme le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Je vous ai enseigné ces choses. Mais maintenant, je suis conduit à vous parler de quelque chose de différent qui se trouve dans ce texte et que je n'ai pas abordé l'autre jour. Ce soir, je voudrais revenir sur ces paroles merveilleuses de Jésus. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent est libre. C'est ce qu'est un homme né de l'Esprit de Dieu. Il est libre. Il souffle où il veut. Au début de 2014, je vous ai offert à chacun de la communauté, pour mon anniversaire, une brochure concernant la volonté de Dieu. C'était un message prophétique pour vous aider à comprendre que si Dieu vit en vous, si vraiment vous êtes né de nouveau, s'il vit en vous, il exprime sa volonté par vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes consacré, si vous êtes animé par l'amour, si vous avez la foi, si vous avez l'espérance, si vous avez le respect de l'ordre établi dans l'Église de Jésus-Christ, si vous avez discerné le corps de Christ, votre volonté se fond dans la volonté de Dieu. Et rien ne vous empêche d'être libre comme le vent et de souffler où vous voulez. Parce que né de nouveau, vous êtes comme le vent qui souffle où il veut. Je me souviens de T.L. Osborne qui m'a dit « Michel, qu'avez-vous dans vos mains ?» C'était en 1979. Mélodie n'était pas encore née. Avec Michou, on a fait le compte, bien sûr, le soir et le lendemain, on est venu avec une feuille remplie de ce que nous avions. En fait, c'était pas grand-chose. Nous étions jeunes et on n'avait pas grand-chose. Mais nous voulions plus. Le problème, c'est que personne, ni même Dieu, ne peut vous aider si vous pensez avoir ce qu'il vous faut. Regardez, par exemple, dans la lettre à l'Odyssée, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec des gens comme ça? Un jour, Melchisédek rencontre Abraham. Abraham reconnut dans cet homme un envoyé de Dieu et lui donna sa dîme. Mais regardez un peu le contexte de cette histoire. Melchisédek était roi de Salem, de Jérusalem. C'est la première fois dans la Bible qu'il est fait mention de Jérusalem. Abraham venait d'attaquer Sodome et comme Lot avait été fait prisonnier, Abraham le libère avec 318 de ses plus braves serviteurs. Et il ramène toutes les richesses avec lui et voilà. Le roi de Sodome demande la vie sauve pour les personnes de sa ville et il dit à Abraham, garde tout le reste, garde l'argent, tout ça, c'est pas grave. Abraham, il a tout rendu à ce bonhomme-là. Il a rendu les gens, il a rendu l'argent, il a tout donné, il a tout. Mais avant cela, il donna la dîme de tout à Melchisédek. Et cette dîme est venu après que Melchisédek donna le pain et le vin. Vous verrez, vous lirez ça dans la Genèse. Je crois que c'est Genèse 14. Et c'est là que Abraham reçut, du moins sa descendance, Jérusalem. En effet, Melchisédek était le desservant d'El Elyon, c'est-à-dire d'El Suprême, c'est-à-dire sacrificateur du Très-Haut, à Salem, à Jérusalem, Et en tant que sacrificateur du Très-Haut, il aurait dû bénir Dieu avant de bénir Abraham. Et ces paroles, ces bénédictions inversées, ont déplacé sa prêtrise terrestre sur Abraham. Pouvez-vous comprendre les choses spirituelles? Melchisédek devenait alors grand prêtre tel que l'était Jésus sur le monde entier et pas seulement sur Jérusalem. Cela, Abraham l'a compris. Et c'est pourquoi il lui a donné la dîme de tout. Relisez bien le texte. Abraham, Melchisédek bénit Abraham d'abord avant de bénir Dieu. C'est une hérésie. Regardez, demandez et regardez, lisez les exégètes juifs et ils disent que c'est une hérésie ce qu'il a fait là. Non, nous savons bien en tant que chrétiens nés de nouveau qu'il a fait la volonté de Dieu en faisant cela. Il a donné à Abraham Jérusalem et c'était Abraham qui devenait maintenant le sacrificateur. Car ce n'est pas à un homme qu'on donne la dîme, mais à Dieu. Et Abraham a reconnu que c'était Dieu là. Si Abraham n'avait pas donné sa dîme à Melchisédek, cela aurait signifié qu'il n'avait pas reconnu Dieu dans cet homme. Mais il discerna le corps de Dieu. Par l'œuvre, parce qu'il a fait, parce que Melchisédek a fait, par l'acte de Melchisédek, il a discerné que c'était Dieu. Et c'est cela qui a béni Abraham, vous voyez? Maintenant, un païen qui fait ce qu'il veut n'est pas dans la vérité. Un païen, je vous rappelle que le mot païen, ça vient du mot paysan, c'est-à-dire un culte. Les paysans, à l'époque, ils n'avaient pas droit à la culture, donc ils ne connaissaient rien. Et aujourd'hui, un païen, c'est une personne qui n'a pas de culture chrétienne, qui ne connaît pas, qui ne sait pas, ou qui a lu sa Bible, oui, mais enfin, qui ne l'a pas étudiée. Vous savez que, bon, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais un païen est une personne inculte, qui n'est pas habité par l'Esprit de Dieu et sa volonté n'est donc pas celle de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans connaître Dieu. Et on ne peut pas connaître Dieu sans connaître les règles, les codes, les subtilités. Regardez comment Abraham connaissait ces subtilités. Il n'a pas donné sa dîme sur un coup de tête. C'était un homme spirituel qui savait discerner les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné à l'Église des docteurs, des enseignants et donc des écoles pour apprendre les règles qui régissent le royaume de Dieu. Et ces règles sont inaccessibles aux gens de ce monde. Et on a beau être né de nouveau, si on ne connaît pas ces règles, eh bien on se trompe. Et après, on est étonné. Mais toi, qui que tu sois, si tu es né de nouveau, et quoi que tu fasses, si tu es né de nouveau, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans le cœur de Dieu, puisque Dieu t'habite. Et tu peux souffler où tu veux. C'est ta mission sur terre, c'est de souffler où tu veux. Regardez, Jésus, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de prier Dieu pour savoir où est-ce qu'on doit aller, quand est-ce qu'on doit aller, avec qui on doit aller. Non, le monde est à nous, va où tu veux, comme le vent. Si tu es un homme de foi, rempli de l'Esprit de Dieu, tu fais les choses de Dieu. Abraham donna plus au roi de Sodome qu'au roi de Jérusalem. Est-ce que vous avez réalisé ça? Relisez le texte. À Melchisédek, il a donné que le dixième. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu et ce qu'il a fait était inspiré. Quelle est l'obligation pour un homme né de nouveau? C'est de vouloir accomplir sa légende personnelle à la gloire de Dieu qui vit en lui. C'est ça qu'un homme, une femme, née de Dieu, doit faire. Vivre la vie que Dieu veut qu'il vive. Comment savoir? Et quand tu veux souffler dans une direction, si tu veux souffler dans une direction, si tu veux agir dans une direction, comme le vent se dirige dans une direction, quand tu veux souffler dans une direction, Dieu et tout l'univers va conspirer pour te permettre de réaliser ton désir. Parce que ton désir, c'est le désir de Dieu qui vit en toi. T'as pas besoin d'avoir peur. Mardi, j'étais à Paris, j'étais chez mon coiffeur, et je pratiquais ma marche lente pendant 20 minutes. Vous savez, je vous ai parlé de ça, la marche lente, et plus je le fais, plus j'apprécie beaucoup. J'étais au boulevard des Italiens et je faisais ma marche lente. Ça fait drôle parce que tout le monde est tellement excité dans ce quartier, et moi, je marchais extrêmement lentement. Et là, j'ai vu un homme qui vendait des marrons chauds. Il devait avoir à peu près mon âge, je pense. Il m'a pas dit, mais je pense qu'il devait être algérien ou marocain ou tunisien ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas un suédois. Et quand il était jeune, ben il était comme tous les jeunes. Il voulait voyager. Je le regardais et je pensais, voilà, cet homme, il a laissé passer son rêve. Il a voyagé, il est arrivé là, puis il s'est acheté une machine à faire chauffer des marrons, puis il gagne un peu de sous, voilà. Je me suis arrêté. Alors, j'ai acheté quelques marrons, c'est très agréable, parce que déjà ça chauffe les mains, c'était très agréable. Et puis j'ai commencé à lui parler, alors il m'a dit que quand il sera plus vieux, il va retourner au pays. Alors je pensais qu'il n'a jamais compris qu'on peut toujours, c'est toujours possible de faire ce qu'on rêve de faire. Pourquoi est-ce qu'il attend d'être vieux? Il m'a dit qu'au pays, quand il était jeune, il gardait les moutons de son père et qu'il dormait à la Belle Étoile, mais qu'ici, maintenant qu'il est ici, c'est formidable. Il a un appartement, il a trouvé une gentille femme, il a des enfants, etc. etc. Et puis il me disait, mais j'aurais jamais trouvé une femme comme ça si j'étais resté berger. Donc pour lui, il avait atteint quelque chose d'extraordinaire. Il était content avec ça. Et je pensais, cet homme ne sait pas qui c'est qui vit en moi. Il ne sait pas qui c'est qui lui parle. Il ne sait pas qui c'est qui l'écoute en ce moment. Tout pourrait changer s'il voulait seulement écouter ce que j'ai à lui dire. Alors j'ai commencé à lui parler de Dieu d'abord. Je ne voulais pas tout de suite arriver avec Jésus. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Puis il y a une cliente qui est venue, qui a acheté des marrons. Ça nous a distrait un peu. Puis j'ai recommencé à parler. On a parlé un peu, j'ai vu qu'en fait, il ne demandait plus rien à la vie. Il mettait un peu d'argent de côté, et puis voilà, quand il serait vieux, il retournera au pays. Alors j'ai pensé, c'est là que j'ai pensé à Melchisédek. Melchisédek, il est apparu aussi comme ça devant Abraham, comme moi je suis apparu devant ce marchand de marrons. Et je me suis dit, je crois de tout mon cœur que Melchisédek, qui est le type de Jésus-Christ, il apparaît toujours sous une forme ou sous une autre, des fois sous la forme simplement d'une bonne idée, sous la forme d'une prophétie, sous la forme de quelque chose qui va nous faire sortir d'une affaire pénible, ou d'autres fois il fait en sorte que les choses deviennent plus faciles. Jésus agit dans notre vie, mais en général, les gens ne remarquent rien. Jésus, il agit dans l'ordre de Melchisédek, hein, c'est ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament. Et en général, les gens ne le remarquent pas. Ou alors, simplement, ils comprennent qu'il faut donner quelque chose. Alors là, donner, oulala, ils ne veulent rien donner. Hein. Or, dans la vie, c'est-à-dire dans Jésus, Jésus est la vie, dans Jésus, dans la vie, il n'y a rien sans rien. Vous vous rappelez cette prédication que j'avais faite, il n'y a pas de repas gratuit. Dans la vie, tout a un prix, même cette prédication. Même cette prédication, elle a un prix. Quand tout le monde fait ce qu'il veut, bon voilà, on pourrait penser, voilà, tout le monde fait ce qu'il veut, voilà, je fais ce que je veux. Mais seuls ceux qui sont nés de nouveau ne se trompent pas quand ils font ce qu'ils veulent. Et être né de nouveau, attendez, ça ne veut pas dire avoir levé sa main dans une réunion puis avoir été trempé dans l'eau, hein. Mais seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui sont conduits par l'Esprit, qui vivent par le Saint-Esprit, eh bien, ils font la volonté de Dieu parce que ils font ce qu'ils font selon les règles du royaume. Les autres, ils sont nés de nouveau, mais ils manquent de foi. Alors, ils sont toujours en train de demander quelle est la volonté de Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ta volonté? Je remets mon sort entre tes mains. Bien sûr, ça paraît très humble. Mais en eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas où il faut souffler. Ils n'ont pas de désir. Parce que le Saint-Esprit en eux, il n'est plus là, soit ils l'ont attristé, enfin je ne sais pas, mais enfin, quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit, mais oh, ça marche quoi. On va de l'avant. Le marchand de Maroncho. Frères et sœurs, enviez la liberté du vent et comprenez que vous pouvez faire comme lui. Il n'y a rien qui empêche là. Personne ne peut vous empêcher, sinon vous-même. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai pas fait ça parce que un tel m'a laissé tomber. Ah, j'ai pas pu faire ça parce que les gens m'ont pas compris. Ah, j'ai... » Ça, c'est des excuses, c'est de la gnognotte. Si Dieu te demande de faire une chose, dans ton cœur, tu le sens, c'est bien, tu peux le faire. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a écrit dans ce monde le chemin de chacun. À toi de le suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. Être sensible. Te rendre sensible. Il y a quelques années, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui cherchait Dieu et qui avait rencontré un sage et qui lui disait « Mais comment il faut faire pour trouver Dieu ?» Vous vous rappelez peut-être de l'histoire. Et le sage est allé avec ce jeune homme devant une rivière et puis il lui a dit « Mets-toi à genoux. » Le jeune homme a pensé qu'on allait faire une prière et tout. Et tout à coup, le sage a pris la nuque du jeune homme et il l'a plongé dans l'eau, il l'a maintenu. Le jeune homme a commencé à se débattre, il sentait qu'il allait se noyer, enfin qu'il pouvait plus respirer. Et il le laissait là dans l'eau comme ça, et tout à coup il l'a ressorti, il lui a dit « Quand tu chercheras Dieu autant que tu as cherché l'oxygène, alors tu le trouveras. » Et ce jeune homme a grandi, il a cherché Dieu de tout son cœur, et il l'a trouvé. Il a trouvé le Seigneur. Il a trouvé Jésus. Il a marché plusieurs années avec le Seigneur, en compagnie du Saint-Esprit, et puis un jour, il s'est aperçu que c'était maintenant une habitude. C'était devenu un train-train. Sa vie chrétienne était devenue un train-train. Voilà. Ça lui donnait plus beaucoup de bonheur, comme au début. Au début, c'était... Puis voilà, là, il n'y avait plus de bonheur. Alors, il s'est remis à la recherche du sage. Alors, le sage avait vieilli lui-même, c'était plus un jeune homme. Et puis, il a trouvé ce sage. Le sage, il s'était acheté un palais. Il vivait dans un palais magnifique au milieu d'un parc extraordinaire. Et l'homme s'est approché, il a cherché, finalement il a rencontré le maître. Et il lui dit « Maître, révélez-moi le secret du bonheur. Je ne suis pas heureux. » Et le sage lui répondit « Écoute, en ce moment-là, je n'ai pas trop le temps, mais... écoute, va te promener dans mon palais, et puis dans les jardins, tout ça, et puis reviens dans deux heures, on parlera. » Alors le jeune homme se lève, et puis il est prêt à sortir, et le sage dit « Attends, je te demande une faveur. » Et il lui donne une petite cuillère en or, et dans laquelle il met 3-4 gouttes d'huile, n'est-ce pas, dans la petite cuillère en or, et il lui dit « Tout au long de ta promenade, tiens cette cuillère avec ta main là, et en faisant bien attention de ne pas renverser l'huile. » Alors l'homme commence à marcher, à monter les escaliers, ensuite descendre dans le palais, en gardant toujours les yeux bien fixés sur la cuillère et sur l'huile pour ne pas renverser. Hein, et tout, ouais, il fait ça pendant 2 heures, et puis il revient vers le sage. Alors le sage dit « Alors, est-ce que tu as vu les belles tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger? Et est-ce que tu as vu le magnifique parc paysager que mes jardiniers ont mis 8 ans à créer? Et est-ce que tu as remarqué les beaux parchemins qui sont dans ma bibliothèque ?» Et l'homme, tout confus, a dû avouer qu'il n'avait rien vu, parce que son seul souci, c'était quoi ? Ben, ça avait été de ne pas renverser l'huile, donc il n'avait pas quitté la cuillère des yeux, et voilà. Alors le sage lui dit, « Bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon univers, » lui dit le sage. « Allez, reviens dans 2 heures. » Parce qu'on ne peut pas se fier à un homme si on ne connaît pas la maison qu'il habite. Alors, l'homme a repris la petite cuillère avec l'huile dedans, et il est retourné faire sa promenade, et à ce moment-là, il a commencé à prêter attention à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur, il y en avait même au plafond, et il a vu les jardins, il a vu qu'il y avait des montagnes alentour, il a vu la délicatesse des fleurs dans cet endroit magnifique, et puis de retour auprès du sage, il a raconté cette fois tout ce qu'il avait vu. Et le sage lui dit, mais où est l'huile qui était dans la petite cuillère? Et l'homme regarde la petite cuillère et il constate que, ben, il avait renversé l'huile. Alors le sage parle et lui dit, c'est le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur de la vie d'un disciple de Jésus, c'est de regarder toutes les merveilles du monde, mais de ne jamais oublier l'huile dans la cuillère. À vouloir être trop veillant et priant et spirituel, on perd de vue la réalité. La réalité des amitiés, la réalité des belles choses, des bons moments, du bon vin, des bons petits plats. On oublie les moments de joie, on oublie les moments où on a communié dans la peine, on oublie toutes ces choses parce qu'on est tellement occupé avec l'huile dans la petite cuillère. Et en regardant trop la réalité, les bons petits plats, les bons vins, les bons moments, les films qu'on regarde ensemble, tout ça, on perd son onction, on perd l'huile. Mon frère, ma sœur, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre. Quand tu auras trouvé l'équilibre, fais tout ce que tu veux. Fais comme le vent. Souffle où tu veux. Mais garde l'équilibre. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon Dieu, pour ces paroles que tu m'as inspirées. Aide chacun et chacune à prendre son envol, mais en s'assurant bien qu'il ne fait pas ce qu'il veut sans toi. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Amen.